Avec les images, c'est bien aussi. L'émission Passion Patrimoine, présentée par Tim Girard, vous emmène dans les secrets du passé mosellan.
Aujourd'hui encore, nous allons arpenter une partie historique de ce département.
En compagnie d'experts et de passionnés, plongés dans l'histoire locale.
Et donc ils vont créer des canons sous coupole, donc déjà protégés, dans des caponnières latérales pour protéger l'accès à la cour.
Découvrez Passion Patrimoine, présenté par Tim Girard sur YouTube. Un programme Moselle TV.
Moselle, autrement l'histoire, Tim Girard.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Moselle, autrement l'histoire. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une époque que j'apprécie tout particulièrement. Une époque où les grands intellectuels écrivent et réfléchissent autrement, en remettant notamment l'homme au centre de tout, au lieu de toujours considérer que tout tourne toujours autour de Dieu. Une époque où des philosophes comme Rousseau, Voltaire ou encore Montesquieu vont disserter sur la connaissance, l'égalité ou encore la superstition et l'intolérance. Depuis la mort de Louis XIV en 1715, Louis XV et Louis XVI peinent à réformer l'État et sont de plus en plus critiqués par le peuple et leur pouvoir est donc de plus en plus remis en question. Le tiers-État, les plus pauvres, commencent à reconsidérer l'admiration qu'ils ont pour leur souverain et les progrès scientifiques qui se succèdent n'en finissent pas de faire souffler un vent nouveau qui, progressivement, amènera l'un des événements les plus connus de l'histoire de France, la Révolution française. Pour autant, dans ces décennies entre 1715 et 1789, de grands projets ont lieu et les villes se transforment. Metz, française officieusement depuis 1552 et l'entrée dans la ville de Henri II, est officiellement rattachée au royaume de France par les traités de Westphalie en 1648, va elle aussi entamer une grande transformation de son architecture et de son urbanisme. Et comme nous allons le voir, certains noms sont restés intimement liés à cette époque de mutation. Vous êtes dans Moselle Autrement l'Histoire, un podcast dédié entièrement à l'histoire du département mosellan. Et avant d'aller plus loin, je vous encourage vivement à liker, noter et commenter cet épisode, et aussi, évidemment, à en parler autour de vous, afin de partager l'histoire de notre territoire, souvent méconnu. Merci à vous, allez, c'est parti! Au XVIIIe siècle, toutes les grandes villes du royaume de France deviennent le théâtre de grandes transformations architecturales. Metz n'échappe pas à la règle. Durement éprouvée par la guerre de 30 ans et les épidémies qui ont suivi au siècle précédent, peste, choléra, famine, la ville doit retrouver son prestige et entrer dans le concert des places importantes du royaume de France. Et la révolution urbanistique qui se prépare va grandement aider. Pour bien comprendre les bouleversements architecturaux qui se mettent en place, il faut prendre la mesure de ce à quoi ressemble Metz au début des années 1700. C'est encore une ville médiévale avec de nombreuses rues étroites qui empêchaient le passage des carrosses, peu d'accès à l'eau et les bâtiments sont pour la plupart vétustes. Osons le mot, Metz est une ville presque insalubre. En 1727, un homme est nommé gouverneur des trois évêchés que sont Toul, Verdun et Metz, par le roi Louis XV, le nom de ce gouverneur, Charles-Louis-Auguste Fouquet de Belle-Île. C'est un grand soldat, meneur d'hommes, nommé maréchal de France en 1740. Cet homme, dont la stature, le charisme et les faits d'armes en font un noble très respecté, est motivé par une ambition forte, faire oublier l'opprobre qui est tombé sur sa famille depuis que son aïeul, Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV, a été arrêté et jeté en prison sur ordre direct du roi. Vous connaissez cette histoire, mais quand même, petit rappel. Ce jeune homme qui commence sa carrière comme membre du Parlement de Metz à seulement 16 ans, deviendra ensuite, à 38 ans, le surintendant des finances du royaume. grand mécène et amoureux des arts, Nicolas Fouquet, qui a des goûts de luxe, fait retaper entièrement un château en piteux état, et ce château deviendra celui de Vaux-le-Vicomte. Grâce à Lenôtre, Lebrun ou encore Levaux, grands architectes, paysagistes, peintres, la demeure devient un modèle de splendeur. Et cet immense palais, aussi merveilleux à l'extérieur qu'à l'intérieur, accueille le roi de France, Louis XIV, lors d'une fête le 17 août 1661. Soucieux de plaire au roi, Nicolas Fouquet organise la plus grande fête de mémoire d'homme. Feu d'artifice, des jets d'eau programmés au passage des calèches, une pièce spécialement écrite par Molière pour cette soirée qui s'appelle Les Fâcheux. Bref, cette soirée est un triomphe qui ravit tous les invités. Enfin, presque tous. Un seul est mécontent, et c'est dommage, parce que c'est le seul invité qui lui mieux valu contenter. Cet invité, c'est le roi de France, Louis XIV en personne. Déjà sur la sellette depuis des mois, grâce à un travail de sape de Colbert qui ne le supporte pas, Nicolas Fouquet a scellé son sort en voulant impressionner tout le monde. Arrêté par le célèbre D'Artagnan en septembre 1661, il est jeté en prison, en même temps que le discrédit est jeté sur son nom, Fouquet. Malgré ce discrédit, le maréchal duc de Belle-Île est parvenu à devenir l'un des hommes les plus respectés du royaume de France. En 1727, lorsqu'il arrive à Metz, Charles-Louis-Auguste Fouquet de Belle-Île fait le tour de sa ville, et là, en voyant ses maisons sur le point de s'effondrer, en observant l'insalubrité de certains quartiers et la dangerosité de certaines ruelles sombres et sales, il prend la mesure des travaux qu'il doit réaliser s'il veut faire de cette ville un lieu à la hauteur du royaume de France et surtout un lieu à la hauteur de son nom, ce nom qu'il aura mis tant de temps à réhabiliter. En tant que gouverneur, la ville qu'on gouverne est une vitrine pour son nom. Mais au-delà de toutes ces horreurs qu'il voit, il voit aussi une superbe cité qui possède un grand potentiel. Il en est sûr, il le sait, il peut faire de cette ville une merveille. On raconte qu'il dit un jour « Metz est ma maîtresse ». Qu'il ait ou non prononcé cette phrase, Belle-Île s'appliquera dès lors et jusqu'à la fin de sa vie à faire de Metz sa base d'armes et sa base de cœur. Au cours de son état des lieux, il fait réaliser un immense plan de la ville de Metz. Pour être plus précis, il s'agit d'un plan cadastral qui établit donc l'état de la propriété foncière. Ce plan existe toujours et vous pouvez le trouver facilement et en haute définition sur le compte Flickr de la bibliothèque médiathèque Paul Verlaine de Metz et je vous encourage évidemment à aller y faire un tour, c'est passionnant. Le maréchal duc de Belle-Île va s'impliquer corps et âme dans les nombreux projets qu'il entreprend à Metz. C'est notamment le cas sur une petite île marécageuse et malodorante. Bien décidé à agrandir les contours de la cité, le gouverneur va faire construire un ensemble néoclassique exceptionnel et des bâtiments publics luxueux. Le palais de l'intendant que l'on connaît aujourd'hui comme la préfecture, mais aussi le théâtre et sa grande place pavée vont devenir les éléments phares de cette île du Petit Saulcy. Le théâtre est aujourd'hui le plus vieux encore en activité en France, et son allure magnifique de pierre de Jaumont, cette pierre jaune qui reflète si bien la lumière du soleil, a de quoi impressionner. Pour de nombreux messins, il s'agit de la plus belle place de Metz. Ce théâtre, il le fait construire pour les soldats. N'oublions pas que depuis longtemps déjà, Metz est une ville de garnison, notamment depuis le XVIe siècle, lorsqu'est construite la grande citadelle qui se trouvait à l'endroit de la place de la République et de l'Esplanade. Pour autant, les infrastructures destinées à accueillir les soldats sont peu nombreuses. Les quelques casernes sont vieillissantes et surtout bien insuffisantes. La majorité du temps, les militaires sont logés chez l'habitant, ce qui, évidemment, est inconfortable pour les messins. Imaginez que vous deviez accueillir un ou plusieurs soldats chez vous, et à l'époque, ces bougres étaient aisément portés sur la bouteille, et les exactions donc étaient nombreuses. Ivres, violents et assez indisciplinés, il faut bien le dire, les soldats étaient d'assez peu bonne compagnie. Le maréchal duc de Belle-Île fait donc construire cet espace de spectacle pour les distraire et les occuper. Et oui, il valait mieux les savoir à l'intérieur en train d'assister à une pièce plutôt qu'à l'extérieur en train de malmener les habitants. Cela dit, n'y voyez aucune attaque de ma part envers l'armée, il est bien évident que la vie de soldat n'était pas forcément facile à vivre non plus, à cette époque et aujourd'hui d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, le maréchal fit construire des casernes afin de loger ses hommes d'armes et ses cavaliers. Une façon aussi de les avoir à l'œil et de les faire revenir à un semblant de discipline militaire. Eh oui, Belle-Île est arrivée, c'est fini de déconner les cocos. En guise d'exemple, il y a bien sûr la place de France, située au bord de la Moselle. 20 bataillons de soldats qui campaient au banc Saint-Martin sont chargés des travaux de terrassement. 3 ans de travaux furent nécessaires pour construire cet ensemble néoclassique, sobre mais imposant. Défendu par des fossés secs et des bastions, la place est une véritable forteresse. L'ensemble comporte une caserne d'infanterie, un hôpital militaire et des magasins d'infanterie, une caserne de cavalerie et même une auberge ainsi que l'église Saint-Simon-Saint-Jude. Le lieu sert notamment de lieu d'exercice pour les hommes logés dans les dites casernes. Belle-Île travaille également de concert avec Louis de Cormontaigne, l'architecte militaire du roi, afin de moderniser la citadelle défensive de Metz, qui date, comme je le disais il y a un instant, du XVIe siècle. Quelque peu remaniée par Vauban sous Louis XIV, elle a besoin d'un coup de fraîcheur et surtout d'amélioration. En effet, l'artillerie évolue à cette époque à une allure considérable et les structures défensives doivent donc s'adapter pour rester utiles. Mais loin de se contenter de ces quelques transformations, le maréchal-duc de Belle-Île voit encore plus grand, et les travaux envahissent aussi le centre-ville. Entre restauration de rues entières, comme sur la colline Sainte-Croix, et construction de quartiers entiers, Belle-Île conduit la révolution urbaine de Metz du XVIIIe siècle en véritable maître d'œuvre. Et même lorsqu'il est à Versailles ou en déplacement sur les champs de bataille, il continue de se tenir au courant de l'avancement des travaux grâce à ses généraux, n'hésitant pas au besoin d'ordonner par courrier à ses hommes de se hâter tout en faisant au mieux les constructions qu'il souhaite. Parmi les comptes rendus qu'il reçoit, il y a également ceux concernant les travaux de la place d'armes. En effet, il sait que la ville doit absolument comporter une place que l'on pourrait qualifier de royale, qui réunit en tout cas tous les pouvoirs en place. Encerclée dans ses remparts, Metz manque d'espace et plusieurs discussions ont lieu afin de savoir où placer ses constructions. Place Saint-Jacques, place de chambre, non. Ce sera la place d'armes au pied de la cathédrale. Mais à l'époque, cet endroit est couvert de petites églises et de cloîtres. Il y a notamment Saint-Pierre aux Images, Saint-Pierre-le-Vieux et d'autres constructions datant de l'an 1000. Ces constructions appartiennent à l'église, qui est une véritable puissance et qui s'oppose au projet de Belle-Île qui veut tout bonnement tout raser afin de faire construire cette place d'armes. L'évêque de Metz, Claude Charles de Rouvroy de Saint-Simon, l'enverra paître plusieurs fois. Ha ! Malgré les réticences et les affronts, Belle-Île, portée par son ambition, obtient enfin en 1754 leur destruction, au bout quand même de 20 ans de discussions et de disputes avec les chanoines. Progressivement, ces églises centenaires sont démontées, pierre par pierre, le palais des 13, symbole de la puissance de la République messine qui gouverna la ville d'une main de fer entre 1234 et 1552, est détruit lui aussi. Les seuls symboles qui comptent pour Belle-Île, c'est bien entendu ceux qui louent la force et l'honneur du roi de France. Petit à petit, le centre-ville, qui n'avait pas bougé depuis le Moyen-Âge, a bientôt un nouveau visage.
C'est fini, oui !
C'est fini, oui !
Celui d'une succession de chantiers qui font mener la vie dure aux habitants. Partout, les échafaudages de bois se montent sur les façades. D'anciens quartiers laissent place à d'immenses terrains vagues où apparaissent les voûtes des caves anciennes. Poussière, boue et détours obligatoires font parfois monter le mécontentement des habitants qui ne reconnaissent plus leur bonne vieille ville déjà millénaire. Pour autant, le gouverneur est une véritable star. Et chacune de ses venues dans cette ville qu'il aime est un triomphe. Acclamé par la foule, Belle-Île est populaire. Il aime les discussions intellectuelles, les débats. N'oublions pas que c'est l'époque des salons littéraires, où les traits d'esprit et les confrontations argumentaires sont très appréciés de la noblesse qui encourage le courant des Lumières. Et le gouverneur des Trois Évêchés n'est pas en reste, loin de là. D'ailleurs, acquis aux idées des Lumières, il œuvre pour la création de l'Académie royale de Metz qu'il forme en 1757. L'Académie royale, c'est un rassemblement d'esthètes qui travaillent au service des avancées scientifiques et médicales. Imaginez en gros tout un conseil de savants qui se réunissent pour disserter et écrire tout un tas de découvertes agricoles, scientifiques, anatomiques, humaines ou animales. Les travaux menés par ces grosses têtes de la ville sont considérables. Un héritage encore bien présent de nos jours à Metz, même si ses activités ont évolué, puisqu'elle existe toujours, cette assemblée qui s'appelle désormais tout simplement l'Académie de Metz. En 1757, Belle-Île devient ministre d'État auprès de Louis XV, puis secrétaire d'État au département de la guerre. Dénomination prestigieuse, mais qui l'éloigne encore un peu plus des travaux de Metz et des Trois Évêchés. Mais comme auparavant, il ne manque pas de se tenir informé de l'avancement des travaux et des affaires courantes. Et oui, même sans internet, on pouvait déjà agir à distance. Et c'est alors qu'un drame arrive dans la vie de notre bon vieux Belle-Île. Voilà 2 ans que la France de Louis XV est entrée en guerre contre l'Autriche, la Prusse et l'Empire russe. Certains l'auront compris, il s'agit de la terrible guerre de 7 ans, celle qui mettra un terme au premier empire colonial français. Et c'est lors de cette guerre, en 1758, que le fils du maréchal-duc meurt au combat. La mort de ce fils provoque la fin de son duché et emporte avec lui le nom de sa lignée. Et pour celui qui avait mis tant de mal à redorer ce nom, celui de Fouquet, c'est un véritable drame. Un drame qui ne sera pas sans conséquences sur la santé du vieux maréchal, alors âgé de 74 ans. Désespéré, le vieux gouverneur se désintéresse peu à peu des travaux qu'il a engagés à Metz depuis 1727. Après tout, à quoi bon se donner tout ce mal s'il n'a plus personne à qui léguer cette ville qu'il voulait à son image ? Fatigué, malheureux et malade, Charles-Louis-Auguste Fouquet de Belle-Île s'éteint 3 ans plus tard à Versailles le 26 février 1761. À Metz, on pleure la mort de ce gouverneur qui a tant fait pour la ville et auquel on s'était habitué, mine de rien, depuis plus de 30 ans qu'il gouverne la ville. Et malgré l'inachèvement d'un grand nombre de chantiers, notamment celui de la place d'armes, le maréchal-duc de Belle-Île a pour toujours imposé son empreinte sur cette ville. Il l'aura aimée, cette cité, qu'il aura mis tant d'énergie à transformer et à moderniser. Si aujourd'hui le nom de cet illustre gouverneur a tendance à se perdre dans les méandres de notre histoire, il n'en demeure pas moins que l'élan qu'il a donné à la ville de Metz a forgé un nouveau visage à cette cité qui n'était plus que l'ombre d'elle-même.
Moselle, autrement l'histoire, Tim Girard.
Le successeur de Belle-Île, le maréchal d'Estrées, a bien du pain sur la planche et il le sait. Le nombre de chantiers dans l'enceinte de la cité rend la vie quotidienne des Messins difficile. Les différentes administrations de la ville sont entassées dans de petits bâtiments parfois provisoires, bref, il faut terminer tout ça et ça urge. Et c'est là qu'un homme providentiel fait son entrée sur la scène architecturale de la ville, un homme dont le nom est déjà célèbre. Il va d'ailleurs définitivement entrer dans l'histoire de la ville de Metz. Cet homme, c'est Jacques-François Blondel. Arrivé à Metz sur commande du ministre de la guerre, Étienne-François de Choiseul, cet homme est d'abord chargé de faire construire une abbaye somptueuse pour la sœur du dit ministre. Mais en voyant l'état de la ville, cet architecte théoricien de renom ayant participé à l'élaboration de l'encyclopédie et auteur de nombreux traités sur l'architecture, va se prendre de passion pour la ville de Metz et pour ses chantiers inachevés. Il brûle d'envie de dessiner et de faire construire des bâtiments sur tous ces terrains vagues, disséminés dans le centre-ville. Il entre donc en contact avec le gouverneur d'Estrées. Blondel se met au travail et dessine de nombreux plans et dessins préparatoires. Il imagine une nouvelle place, de nouveaux palais, des fontaines, des rues entièrement de style néoclassique, the style à la mode à cette époque. Et tout ça, il le fait afin de convaincre d'abord le maréchal d'Estrées, mais aussi et surtout le roi Louis XV. Après de longues discussions et négociations, il a enfin le feu vert. Blondel est ravi, et le maréchal d'Estrées est soulagé. Il a enfin trouvé quelqu'un pour mener à bien l'ensemble des chantiers inachevés. Les travaux peuvent enfin reprendre. L'hôtel de ville, le corps de garde, actuel office de tourisme, le parlement, aujourd'hui des bureaux et des boutiques, viennent encercler la place d'armes qui se couvre de pavés. Enfin, la boue et les chemins glissants de bois disparaissent au profit d'une véritable place faite de pierres. Et ces bâtiments sont beaux, colossaux, magistraux, bref, ils sont dignes de la grandeur du royaume de France, en tout cas pour une ville moyenne comme Metz. L'hôtel de ville est construit en pierre de Jaumont, pierre jaune emblématique de la Moselle, dont les carrières se trouvent à une quinzaine de kilomètres au nord de Metz. Cet hôtel de ville représente le pouvoir municipal. Le style néoclassique va accompagner l'ensemble des projets de Jacques-François Blondel. L'hôtel de ville, haut de 2 étages et long de 92 mètres, est un véritable palais. Et il faudra pas moins de 10 ans pour le bâtir, de 1761 à 1771. Sa façade est agrémentée de 9 arcades gigantesques et de 2 grands avant-corps au fronton sculpté par le sculpteur Rollier. Un spectacle visuel qui se poursuit à l'intérieur de l'édifice. Le grand escalier du péristyle, surmonté de 2 sculptures classiques représentant la prudence et la justice, mais aussi les magnifiques salons d'apparat comme le majestueux salon de Guise, confirme l'ambition de Blondel, faire entrer Metz dans la modernité instaurée par la construction de Versailles quelques années auparavant, et tout ça grâce à son coup de crayon. Et oui, pour Blondel, mettre en application ses grandes théories sur l'architecture qu'il se plaît à écrire depuis longtemps est important. En effet, Blondel est une star dans son domaine, mais ne reste jusque-là qu'un théoricien de la pratique architecturale. Ce n'est pratiquement que grâce à ses constructions à Metz qu'il devient véritablement un architecte à part entière. Sur la place d'armes apparaît également le corps de garde représentant le pouvoir militaire. Il est lui aussi construit en pierre de Jaumont. Bâti sur 2 étages, un rez-de-chaussée orné de 7 arcades, un fronton sculpté, il ressemble en fait à une réplique miniature de l'hôtel de ville et s'intègre donc parfaitement au paysage urbain qui se met en place progressivement au cœur de la ville de Metz. De l'autre côté de la place, Blondel fait construire le Parlement, un autre pouvoir important au XVIIIe siècle qui réunit la cour de justice souveraine du royaume afin de représenter le pouvoir royal à Metz. Là encore, le bâtiment de style néoclassique s'intègre parfaitement au nouveau visage architectural de la place d'armes. La place prend donc peu à peu forme. Pouvoir royal, pouvoir municipal, pouvoir militaire et pouvoir religieux, symbolisé par l'immense et magnifique cathédrale Saint-Étienne qui fait face à ce nouvel hôtel de ville. Cette place rassemble tous les pouvoirs de manière aérée et uniforme et tous sont mis en exergue par la beauté de l'architecture néoclassique moderne élaborée par Jacques-François Blondel. Et afin de pousser l'unité architecturale de cette nouvelle place royale jusqu'au bout, l'architecte va se lancer dans l'harmonisation néoclassique partielle de la cathédrale gothique. Pour ce faire, il construit un immense portail haut de plus de 12 mètres, flanqué de gigantesques colonnes classiques et d'un fronton circulaire colossal. Il construit également des galeries, néoclassiques toujours, à la base de la cathédrale, où s'installent des échoppes et des artisans. Malheureusement, ces constructions attenantes à la cathédrale Saint-Étienne seront détruites par les Allemands à la fin du 19e siècle, lors de la première annexion allemande, mais c'est une autre histoire. Alors que les travaux se poursuivent, l'architecte faiblit. Et oui, âgé de 69 ans déjà, il n'est plus tout jeune. La vieillesse commence à avoir raison de son génie et de son énergie étonnante. Jacques-François Blondel s'éteint à Paris, au Palais du Louvre, le 9 janvier 1774. Malgré sa mort, les travaux à Metz se poursuivent et selon ses plans. Il reste encore un bâtiment à Metz, signé Jacques-François Blondel, dont il faut absolument parler. Il s'agit d'une véritable institution dans laquelle les Messins se rendent quasi quotidiennement. Il s'agit du marché couvert. Situé face à la cathédrale, c'est une énorme bâtisse en forme de U, flanquée d'arcades tout au long de ses façades, et c'est une architecture sublime. À l'origine destiné à accueillir l'évêque de Metz, ce palais épiscopal est grandiose, notamment lorsqu'on l'observe de la place de chambre. Vous en doutez, allez donc jeter un œil, vous verrez. Et encore, ce palais n'a jamais vu le jour autant qu'il l'aurait dû. Si les plans avaient été suivis jusqu'au bout, il devait être encore plus grand, plus haut d'un étage, mais on parle d'étage de 4 mètres, alors ça fait déjà pas mal de plus. Mais alors pourquoi n'a-t-il pas été construit comme le voulait Blondel, encore plus haut? Eh bien, c'est à cause d'un événement que tout le monde connaît, un événement national qui va faire trembler les murs de tous les régimes d'Europe et qui va marquer l'histoire du monde. Vous l'avez deviné, il s'agit de la Révolution française. Lorsqu'elle éclate en juillet 1789, les sommes faramineuses consacrées aux transformations urbaines encouragées par la royauté sont retoquées par les révolutionnaires. Et oui, les priorités changent et le palais épiscopal, dont les travaux sont interrompus, ne sera jamais totalement achevé. Pendant de longues années, il restera une coquille de jaumont vide jusqu'à ce que, en 1821, on décide d'en faire le marché couvert. Et voilà maintenant, vous saurez pourquoi vous allez acheter vos légumes, fromages, viande et poissons dans un palais aux airs de Versailles. C'est sûr que ça a plus de gueule que d'aller au Leclerc du coin. Merci Blondel. Le 18e siècle, ce siècle des Lumières, est le théâtre de nombreuses transformations qui ont fait entrer la ville de Metz dans la modernité et le luxe de l'ancien régime flamboyant de Louis XIV, de Louis XV et de Louis XVI. Une histoire qui incontestablement a transformé le visage de la ville de Metz et même de la Moselle. Et c'est aussi cela qui fait de la capitale mosellane l'une des plus belles villes de France. À mon avis, la beauté de cette ville jaune, dessinée par des siècles d'architecture différentes, est encore largement sous-cotée. Et les ajouts du XVIIIe siècle participent évidemment à cette beauté enchanteresse pour quiconque observe les bâtiments de Metz. Nombreux sont les Messins qui, habitués à passer devant ces bâtiments superbes, ne se rendent même plus compte de leur beauté. Et pourtant, mes quelques amis parisiens, quand ils viennent à Metz et que je leur fais une petite visite guidée du centre-ville, ils sont subjugués. Et pourtant, chez eux, question patrimoine, il y a pas mal de choses. Et depuis d'ailleurs, ils reviennent quasi tous les ans. L'histoire du centre-ville de Metz, dont je viens de vous raconter qu'une infime partie, est exceptionnelle. Je le dis souvent et je l'assume d'ailleurs, je le répète, l'histoire de la Moselle est exceptionnelle et encore trop méconnue. Voilà pour ce nouvel épisode, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à mettre plein d'étoiles et à commenter, évidemment avec du positif c'est toujours mieux, mais j'accepte la critique. Et bien sûr, partagez l'histoire de notre beau département. Parlez-en autour de vous de ce podcast. Enfin, si vous souhaitez découvrir l'histoire de la Moselle en images et en compagnie d'historiens aussi chevronnés que sympathiques, rendez-vous sur YouTube, tapez Destination MOSL et préparez-vous à voyager au cœur de notre passé mosellan en vous promenant à travers les secrets de notre histoire. A bientôt pour un nouvel épisode. Ciao et prenez soin de vous. Bye. «
Moselle, autrement l'histoire, Tim Girard.